Boker Tov les Koulam. Nous revenons dans notre étude du mardi. Alors là aussi, hein, après deux semaines d'arrêt pour des raisons techniques, eh bien, nous reprenons, ça y est, enfin, notre étude du mardi matin sur les Pirkei Avot. Et nous sommes donc dans le chapitre 3. Chapitre 3, Mishnah 7. Mishnah Zayin. Bene, Rabbi Elazar Ish Bartota. אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. אוהו. נודי אצלי למשנה, רבי אלעזר, נודי, תן לו. רוע הקדוש ברוך הוא, פסקו זה תלוי. אתוה, תוס כי תפרטיין, אופת, זה אלוי. וכי זה כסף ודיר? כסף זה כסף היסטואר? Que tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Et bien, c'est une grande question générale de Emouna. Est-ce que le monde est l'endroit de l'expression du divin, ou est-ce que Akadosh Baruch Hu m'a laissé à moi la possibilité d'exploiter ce monde? Et bien, c'est une grande question. Finalement, d'un côté, on sait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, et donc on sait que il est koné à kol. On dit ça dans la tefila trois fois par jour, ve koné à kol. Et donc ça veut dire que tout est son kinyan, tout est à lui. D'un autre côté, eh bien il y a ilchot ba'alut, il y a les lois sur la propriété, et ce qui est à moi, eh bien est à moi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est à moi ou c'est à lui? En fait, cette question, on peut la résumer dans cette marloquette entre deux versets. D'un côté, on va nous dire L'Hachem Aretz Umeloa, Tevel Veyoshveva, ce qui veut dire que toute la terre appartient à Dieu ainsi que ses habitants, ou alors lorsqu'on va nous dire Hashamaim Shamaim l'Hachem Veharetz Natan Nivne Adam, que les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre a été donnée aux hommes. Alors qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut accepter au niveau de la halakha? Le premier verset qui dit que tout est à Dieu, ou le second qui dit que Dieu nous a donné la possibilité d'utiliser ce monde. Eh bien, nous dira le Talmud que pour comprendre la séparation entre ces deux versets, eh bien, pour ce qui est du fait d'utiliser pour moi-même les choses de ce monde, eh bien, ce sera avant la bracha, mais après la bracha. Et oui, quand on y réfléchit bien, quand je vais manger une pomme que j'ai trouvée sur un pommier, eh bien, en vérité, cette pomme, est-ce qu'elle m'appartient ou est-ce qu'elle appartient à Dieu? C'est une bonne question. Qui a fait pousser le pommier? Qui a amené la pluie quand il fallait? Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, nos sages vont nous dire, eh bien, avant la beracha, la pomme appartient à Dieu. Et donc, elle fait partie du concept qui s'appelle la Hashem Aretz Umeloa Tevel Veyoshveva. En d'autres termes, la pomme, elle est Kodesh. Ainsi, je n'ai pas le droit d'utiliser quelque chose qui est Kodesh, ça s'appellerait Me'ila Bakodashim, ça s'appellerait voler Dieu. Lorsque je fais la bracha, j'ai demandé la permission à Dieu, Dieu me donne cette permission, et à ce moment-là, après la bracha, la pomme devient Chol, c'est-à-dire elle devient utilisable par moi-même, et elle rentre dans la considération du deuxième verset, Shamaim, Shamaim la Hashem, mais Aaretz, Nathan, Livne Adam, nous a donné la possibilité d'utiliser ce qui se passe dans ce monde. En d'autres termes, quand la Mishnah vient nous dire « Tenlo, Michelo, et rends-lui ce qui lui appartient, à partir de ce qui est à toi. » Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la Chalem Ha'aseh, cette Mishnah nous explique eh bien, que lorsque tu vas faire quelque chose d'idvar mitzvah, que ce soit tzedaka, ou alors acheter des choses pour la mitzvah, eh bien, al tit kamtsen, ne sois pas avare pour ce qui est d'acheter des choses qui vont servir à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que finalement, c'était à lui. Il te l'a donné pour que tu puisses utiliser ce monde, pour que tu puisses le dévoiler. Donc, ten lo michelo, ki ata veshelcha shelo. Et ça va encore plus loin hein, si on y réfléchit bien. Ce concept-là de dire que tout appartient à Dieu, il faut lui rendre, eh bien, peut trouver son paroxysme dans le concept de rendre ce qui est le plus cher, de le rendre à Dieu. C'est-à-dire, Dieu m'a donné quelque chose d'extraordinaire, il m'a donné la vie. Donc, eh bien, la moindre des choses, c'est de lui rendre ce qu'il m'a donné. Et donc, il faudrait peut-être lui rendre la vie. Oh oh, est-ce qu'on prônerait ici le suicide? Ou alors, il m'a donné ce qui est le plus cher à mes yeux, ce n'est pas ma vie, mais c'est bel et bien la vie de mon premier fils. Alors peut-être qu'il s'agirait ici de faire des sacrifices humains et de sacrifier son premier-né. Je ne parle pas dans le vent, vous savez comme moi que dans les traditions de l'époque, et je parle de l'époque de la Torah, eh bien toutes les cultures environnantes étaient arrivées à la compréhension qu'il fallait non seulement faire le sacrifice humain, mais le béchor. Et je vais vous dire mieux que ça, c'est une idéologie qui était même entendue et plus ou moins acceptée chez le peuple d'Israël. Eh oui, en Égypte, Am Israël avait sacrifié ses béchorot. Quand on regarde dans la Torah, dans le décompte des Béné Israël, dans le livre de Bamidbar, eh bien, il y a un problème, il n'y a pas assez de béchorot par rapport au nombre du peuple juif. Ou alors, ça veut dire que chaque famille avait 17 enfants, ce qui est un petit peu compliqué. Et là, que malheureusement, quand on est sorti d'Égypte, on avait traîné avec nous toutes les perversions de l'Égypte, et donc il a fort à penser qu'on était aussi tombé dans ces déboires de sacrifices humains. Ainsi, le chidouche de la Torah, l'enseignement extraordinaire de la Torah, déjà avec Akedat Yitzhak, déjà avec le sacrifice de Yitzhak, qui justement n'a pas eu lieu, eh bien, c'est de montrer que Akadosh Baruch Hu ne veut pas de sacrifice humain. Oui, mais alors comment faire? Je dois bien rendre à Dieu ce qu'il m'a donné. Bien sûr, je rends à Dieu ce qu'il m'a donné. Je suis prêt à être sacrifié sur le Mizbéach. Ma volonté, je la donne complètement à Dieu. Si bien que le côté animal qui m'habite, parce que je suis fait de deux choses, je suis fait d'une nefesh éloïque et d'une nefesh béhémite. Je suis fait d'un côté divin, ma neshama, et d'un côté animal, mon corps. Donc le fait de mettre l'expression de ma neshama, à savoir ma volonté, sur le Mizbéach, eh bien, permet de ensuite remplacer la partie corporelle par un animal. Et c'est ce qui s'est passé avec la Akedat Yitzhak. Il y a marqué là-bas que Abraham a sacrifié le bélier Tachat Beno. Alors, Tachat, on pourrait dire à la place de son fils Yitzhak. Mais le Midrash nous expliquera que non, il a mis le bélier, il a mis Yitzhak sur le bélier et il a fait la shrita du bélier en dessous de son fils. Et d'après la halakha, lorsqu'on vient faire un korban au Beth Amikdash, on doit déposer nos mains sur le korban, smichat yadaim à la korban, et nous dit la halakha que c'est l'homme qui doit penser, en faisant cela, que c'est ce qui aurait dû lui arriver à lui. Donc il met sa volonté, la partie animale, on la remplace par un bélier ou autre animal. En d'autres termes, nous dit Rabbi Elazar, ben barota, ben bartota, c'est ça, ten lo michelo, chez ata veshelcha shelo, en fait tout est à lui, mais il a envie que tu puisses utiliser ce monde. Donc, tarzir lo, mais uniquement de la manière où ça va permettre de le dévoiler. Vechen be David ou Omer, ki memecha akol ou miyadecha natanu lach. Donc ça, c'est le verset qui nous enseigne que David, lui, était arrivé à cette compréhension-là. Mais maintenant qu'on comprend que tout appartient à Kadosh Baruch Hu, nous enseigne Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, ha-me'aler baderech, ve-shone. C'est-à-dire qu'il est en train de marcher dans le monde de Dieu, et où l'on met Torah, où mégalé Torah, il dévoile l'enseignement de la Torah quand il avance dans ce monde. Où mafsik mi mishnato ve omer manae ilan ze, où manae nir ze, maale alav akatuv keilu mitrayev be nafsho. Ouah! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dis à Rabbi Shimon, si quelqu'un est en train de marcher dans la rue, il est en train d'étudier, et il s'arrête pour s'émerveiller devant la création de Dieu, alors à ce moment-là, c'est comme s'il était passible de mort. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est très bien de dire, waouh, quel bel arbre, quelle belle maison, quelle belle voiture, l'homme échané. Alors moi, je vous explique. Cette Mishnah, vous savez quoi? Au lieu de parler entre vous, écoutez bien cette histoire, les enfants. Cette Mishnah, eh bien, on l'a vécue dans notre famille. Mon frère, c'est qui mon frère? Eh, tonton Yoram. Eh bien, mon frère. Alors, je sais plus quel âge il avait. Il devait avoir, je me rappelle plus, mais il devait avoir un 12-13 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus. Je me rappelle plus. La vérité, je me rappelle plus. mais c'est dans ces eaux-là. Il arrive à l'école. Maintenant, mon père nous déposait en voiture devant l'école, et il y avait un moment donné où c'était une rue piétonne, donc, enfin une rue en contresens, pas piétonne, mais en contresens, donc mon père nous déposait, et on devait marcher les 500 derniers mètres, je sais pas, qui nous séparaient de l'entrée de l'école. Donc mon frère descend de la voiture, et il marche. Son sac à dos, il connaît le chemin par cœur. À ce moment-là, il y a une voiture de sport qui passe dans la rue, donc dans le sens de la route. Et donc, eh ben, il est impressionné par cette voiture. Il n'avait pas l'habitude d'en voir des comme ça à Metz. Et donc, eh bien, il suit la voiture du regard. Wow! Mais il continue à marcher. Il marche, mais wow! Et il n'a pas vu l'arbre qui était là. Et boing! Et il s'est complètement écrabouillé la moitié du visage sur l'arbre. Eh bien, bon, je pense pas que mon frère à ce moment-là était en train d'étudier la Torah, mais on pourrait le mettre en corrélation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon ? Tu es en train d'étudier la Torah quand tu marches. Mais à l'air bader rechonné. C'est pas le mec, il est comme ça dans son livre et il marche comme ça, et il se prend un arbre. Parce que ce mec-là, il est débile. Quand tu marches, il faut que tu regardes devant toi, il faut pas que tu sois comme ça. C'est fantastique. Moi, je vois toujours les gens dans la rue, ils sont en train d'écrire des messages WhatsApp, machin, ils sont en train de marcher, et après, et ils te rentrent dedans, et c'est encore toi qui dois t'excuser. Allô? Non, on parle pas de quelqu'un comme ça. On parle de quelqu'un qui est en train de marcher. Il regarde le monde d'Akadosh Baruch Hu, vous chonnez. C'est ça qui est en train d'être pour lui son limoud à Torah. Il se repasse des Mishnayot, des enseignements par cœur dans la tête, dans le moment où il est en train de marcher. S'il est obligé de s'arrêter de son étude pour dire « Manae ilanze », pour dire « Waouh, quel bel arbre, quelle belle voiture !» S'il est obligé de s'arrêter de son étude, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour lui, l'émerveillement de ce monde est extérieur au Limud HaTorah. Il est en train donc de dire qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur du royaume divin. Celui-là, ou Mitraïev Benafsho, presque. Alors, il ne va pas être payé, il ne va pas mourir. Mais il est en train de dire qu'il y a une séparation entre le monde de la Mishnah, de la Torah, du dévoilement divin, et le monde de l'émerveillement au quotidien. Mais celui-là, il n'a rien compris à ce qu'était la Mishnah. La Mishnah doit nous permettre de dévoiler, eh bien, tout simplement, l'expression de Dieu au quotidien. L'expression de Dieu au quotidien. Donc, si je suis obligé de m'arrêter de ma Torah pour m'émerveiller de ce monde, c'est que j'ai fait une marloquette entre la Torah et le monde. Eh bien, celui qui fait une marloquette entre la Torah et le monde, quelque part, c'est Avodah Zara. Parce que cela vient dire qu'il y a une séparation, il y a Dieu, et puis il y a autre chose. Eh bien, si on vient dire qu'il y a autre chose dans ce monde, eh bien, c'est ce qu'on appelle dans le langage du judaïsme, Avodah Zara. Vers Avodah Zara, c'est Chayav Mita. Alors, c'est lo behemet Avodah Zara. Donc, Urak, Mitraïev, Benafsho, Keilu. C'est lo behemet. Aval, il faut quand même se rendre compte que nous n'avons pas le droit d'arrêter notre étude pour nous émerveiller de ce monde. Au contraire, c'est lorsque nous nous émerveillons de ce monde et que nous rattachons cet émerveillement, eh bien, à notre Torah, qu'on est capable de laisser la place à un dévoilement total d'Akadosh Baruch Hu. Et je pense que ça, c'est un enseignement qui valait le coup d'être dit de bon matin. À bientôt, les amis.